Voilà, merci beaucoup de me donner la parole. Quelqu'un m'a dit récemment, de la fraternelle, m'a dit « Tu es très très discret, il me semble, depuis bien longtemps. » Alors c'est vrai que la retraite est une période particulière. Ça fait bientôt 3 ans que je suis à la retraite. L'impression d'être toujours en apprentissage, découvrir ce que c'est exactement. Mais voilà que... C'est vrai, il y a pas mal de pistes. Ma prière, c'est d'essayer d'être utile dans l'œuvre de Dieu encore. Et puis, il y a pas mal de sollicitations qui sont venues de l'extérieur, en particulier au niveau de la FRE, notre fédération d'église, de mandats qui me sont accordés pour accompagner des jeunes pasteurs, aussi pour accompagner une église qui est aux soins intensifs actuellement. Et puis j'ai pas mal d'implications aussi dans les séminaires avec Campus pour Christ. On a de plus en plus de sollicitations. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de mettre tout ça en équilibre. Et puis Claudine est à la retraite aussi officiellement depuis le mois de mai. Donc il faut encore intégrer cette nouvelle dimension. Seuls ceux qui ont l'expérience de la retraite peuvent confirmer que ça peut être un vrai défi. Pour tous. Mais, comme l'a dit Anthony aussi, de temps en temps, il y a aussi des bons moments de détente, il y a les petits-enfants, il y a la pêche, puis il y a des voyages. Alors, c'est là que je dois sortir ma petite zapette. Elle n'est pas là, ma zapette. Tu me l'as volée, hein. Disons que c'était un enfant. Voilà. Et cette année, avec Claudine, on a eu la possibilité d'aller dans un pays auquel on n'avait jamais spécialement pensé. C'est l'Éthiopie. Et je dois dire que j'ai été très, très surpris. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés en Éthiopie dans leur existence. C'est un pays absolument magnifique, à tout point de vue. Enfin, il y a beaucoup de pauvreté, ça c'est bien sûr dommage, mais il y a des paysages extraordinaires, plus de 10 sommets à 4000 mètres et plus. Des espèces endémiques tant au niveau de la faune que de la flore, que des espèces végétales, il y a des arbres qui sont absolument fabuleux. Espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve qu'en Éthiopie. Puis il y a une histoire qui est très riche, on a visité même des châteaux. Il y a eu des rois en Éthiopie, quantité de rois. On connaît en général Haïlé Selassie qui était même empereur, mais il y a beaucoup plus que cela. Et dans cette histoire, il y a des éléments qui sont... incroyable, cette histoire d'Éthiopie, globalement. Puis il y a beaucoup de mythes, de légendes, il faut un peu trier là au milieu. Et c'est aussi vrai au plan religieux, voire au plan spirituel, mais ça aussi, j'étais sidéré, je me suis intéressé particulièrement à cette dimension-là pour préparer le voyage, puisqu'on nous confiait la conduite d'un groupe avec Agape Voyage. Et puis là, j'ai découvert que, par exemple, l'Éthiopie, c'est après l'Arménie, qui était la première nation qui s'est proclamée chrétienne à travers son roi en l'an 300, eh bien, l'Éthiopie est le deuxième pays au monde qui a reconnu le christianisme comme sa religion officielle. Et il y a une longue histoire de la relation du pays de l'Éthiopie avec la foi chrétienne. Dans la Bible, formellement, il y a un épisode qui fonde cette relation, c'est l'épisode de la reine de Saba qui va trouver Salomon. Mais pour les Éthiopiens, ça ne s'est pas arrêté à la découverte de la sagesse du roi d'Israël, à une sagesse étonnante qui ne pouvait venir que du Créateur, mais également pour eux, eh bien, ben, ils sont bien, bien rapprochés ces deux-là, au point que, ben voilà, il y a eu une grossesse et une naissance. Vous ne le saviez peut-être pas, ce n'est pas marqué dans la Bible, mais pour les Éthiopiens, c'est très important. Et le fils qui va naître de cette union, eh bien, va être un roi d'Éthiopie, et à sa suite, bien des rois d'Éthiopie sont descendants de Salomon, pour les Éthiopiens. Et à travers Salomon, il y a plein de surprises, notamment, eh bien, à un moment donné, quand ce fils a eu 20 ans, il serait allé à Jérusalem, Salomon aurait donné un anneau pour l'identifier, et il est venu avec ses amis, et puis ils sont repartis avec l'Arche de l'Alliance. Vous ne saviez pas ça. J'ai failli voir l'Arche de l'Alliance en Éthiopie, dans la ville d'Aksum, la ville de la reine de Saba. Elle était dans une église, on la sort une fois par année. Mais pas sûr que ce soit la vraie Arche de l'Alliance, mais enfin, voilà. Toujours est-il qu'il y a eu beaucoup de liens étroits avec le judaïsme. Et une des particularités de l'Éthiopie, quand on la visite, c'est qu'on se trouverait encore dans l'Ancien Testament, à certains égards. Il y a le respect de lois alimentaires. Bon, par exemple, les chrétiens éthiopiens ne mangent pas de porc. Et puis, on était pour la Pâque éthiopienne, c'est l'église orthodoxe là-bas, 56 jours avant Pâques, ils ne mangent plus de viande. Voilà. Il y a circoncision du fils qui naît dans une famille au 8e jour, 40e jour, on présente l'enfant au temple. Pour aller dans le temple, on enlève ses chaussures, comme l'épisode du buisson ardent où Moïse avait retiré ses chaussures parce que c'était un lieu saint. La structure même du temple des églises est selon le modèle du temple de Jérusalem, etc., etc. Donc, les liens avec le peuple juif se sont manifestés sous différentes formes. Là, j'ai retrouvé une carte du monde juif en l'an 300 après Jésus-Christ, mais on voit qu'il y a, dans la région d'Aksum, justement, il y a eu des colonies juives avec des synagogues. Il y a eu, on sait, beaucoup de juifs qui ont, à différents moments de l'histoire, sont allés en Égypte et en Haute-Égypte. Nous étions sur les hauts plateaux à 2500 mètres d'altitude au nord de l'Éthiopie. Et puis là, il y a cet épisode sur lequel on s'arrête un moment ce matin, qui m'a beaucoup touché et interpellé à différents niveaux, et notamment parce qu'on parle d'un Éthiopien, et j'ai beaucoup réfléchi à cette question ces derniers mois. Un eunuque à la nuque souple. Myriam m'a demandé de donner un titre. Il est question dans la Bible de la nuque raide ou de la nuque souple. La nuque raide, c'est celle qui s'oppose à Dieu, et celle qui est souple, c'est parce qu'elle a un cœur ouvert. Voilà, en bref résumé. Et dans le livre des Actes, au chapitre 8, il y a le récit de cet eunuque qui est venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Et c'est vrai que c'était un assez long voyage. On ne sait pas par où il a passé, peut-être par voie terrestre, peut-être par voie maritime. Mais cet homme avait eu des contacts avec des juifs en Éthiopie. Et il était probablement un craignant Dieu. Il y avait deux catégories de personnes païennes qui pouvaient faire des chemins comme ça, des cheminements spirituels en lien avec le peuple juif. Soit ils étaient des craignants Dieu, ils commençaient à découvrir les lois de Dieu, ils avaient le respect des lois de Dieu, du Dieu vivant. Ou bien ils devenaient prosélytes et ils allaient jusqu'à la circoncision. Seulement, pour un eunuque, se faire circoncire, c'est pas toujours possible, pas toujours évident. Hein? On sait qu'un eunuque subissait une ablation des parties génitales, enfin, il y avait toutes sortes de situations qui pouvaient se produire. Et cet homme, en tout cas, au contact de la synagogue, a eu à un moment donné envie d'aller adorer à Jérusalem. Et c'est ce que dit le livre des Actes. Un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, donc ministre des Finances, était venu à Jérusalem pour adorer. C'est magnifique, hein ? Il parcourt une distance, probablement environ 3000 kilomètres, pour aller adorer Dieu. Moi, je trouve cet homme magnifique. Et on peut imaginer, après tout ce voyage, d'arriver là, dans l'environnement du temple, qui représentait le lieu de la présence de Dieu, où elle était le plus manifeste sur toute la terre entière, en tout cas pour les Juifs. Et il était enfin là, à Jérusalem, la colline de Sion, là où tous sont nés. Mais voilà, autour de ce temple, seuls les prêtres et les juifs hommes pouvaient aller offrir des sacrifices. Seul le grand prêtre, une fois par an, pouvait entrer dans le lieu très saint. Les femmes juives pouvaient aller dans la première partie de l'enceinte du temple, à proprement parler. Mais cet eunuque, est-ce qu'il a pu vivre cela? Si j'élargis un petit peu, voilà, seuls les Juifs pouvaient vraiment aller dans cet intérieur, pas seulement sur le parvis du temple. Pour les païens, lorsqu'ils arrivaient sur l'esplanade du temple, il y avait un panneau. On en a retrouvé un encore en 1871 à Jérusalem. Les archéologues font un travail admirable. Bien, sur ces panneaux, c'était marqué que les étrangers n'avaient pas accès au cours du temple. Et ces écriteaux étaient en grec et interdisaient l'entrée sous peine de mort. Donc, je n'ai pas l'impression que cet eunuque a pu aller prier proche de Dieu, tout près de Dieu. D'autant plus que dans la loi, il y a notamment ce texte, Deutéronome 23:2, « Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de Dieu. » Évidemment, là, on pourrait s'arrêter, se dire « Tiens, mais ça devait être quand même terriblement frustrant pour cet homme. » Et il est reparti. Il va repartir au pays, mais il a pu acquérir un rouleau des Saintes Écritures. Voilà, comme celui-ci, mais plus joli en cuir certainement, il avait les moyens financiers. Puis les rouleaux de la Bible sont en général plus allongés, hein. Tu confirmes, Anthony. Et il est là sur son char, et il va lire le rouleau du prophète Ésaïe. Et à ce moment-là, il va y avoir un serviteur de Dieu, Philippe, un diacre de la première église, qui est envoyé vers cet Éthiopien. Et quand il s'approche du char de l'Éthiopien, il entend lire ce texte d'Ésaïe. Alors, je ne sais pas si Lula et Jessica, vous soyez d'accord de dérouler. Voilà, ça c'est le rouleau du prophète Jérémie. J'avais fabriqué ça il y a quelques mois ou années. On peut dérouler, voilà, mais Jérémie, c'est 52 chapitres, Ésaïe 66. Mais j'aime bien visualiser un petit peu. Aujourd'hui, on a nos Bibles, hein, tout est bien compacté. Maintenant, on a même les téléphones sur lesquels on a les Bibles. Oui, c'est pas mal. Et voilà que cet homme est en train de lire le rouleau d'Ésaïe. Et il est en train de lire un chapitre qui est le chapitre 53 d'Ésaïe. Et Philippe entend cela et il demande à cet homme, et vous pouvez rouler, voilà, c'est bon. Il lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et il dit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Alors, ce texte d'Ésaïe, voilà ce que cet eunuque a dû lire, en tout cas voilà un extrait qui est marqué, indiqué dans le livre des Actes au chapitre 8, 32 et 33. C'est un extrait d'Ésaïe qui correspond à Ésaïe 53, 7 et 8. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de la terre. Alors on peut bien comprendre, je ne sais pas, vous avez, j'espère, lu une fois ce texte, mais imaginez, ou souvenez-vous, quand vous avez découvert ces récits prophétiques de l'Ancien Testament la première fois. Et cet homme qui est sincère, qui est un croyant, dit, mais de qui le prophète parle-t-il? Je ne sais pas ce que vous auriez répondu. Un juif à l'époque aurait dit, eh bien, il parle de Cyrus. Une forme de Messie qui allait venir pour libérer le roi des Perses, effectivement, qui a libéré la nation juive de l'exode à Babylone. D'autres auraient dit, mais ce serviteur souffrant dont il est parlé ici, c'est le titre qu'on donne dans nos Bibles en général, mais il s'agit du peuple d'Israël. Il y a beaucoup de Juifs le croient encore aujourd'hui. D'autres disent, oui, c'est Israël, mais le reste fidèle d'Israël. Et d'autres disent, non, ça c'est le Messie qui doit venir un jour. Et les auteurs du Nouveau Testament reconnaissent, identifient clairement dans ce serviteur d'Ésaïe, le Messie, Jésus-Christ. Alors, voilà que Philippe a pu monter sur ce char, a pu expliquer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Il a pu lui partager cette dimension de la révélation de Dieu à travers Jésus-Christ, ce Messie, ce Sauveur attendu. Ce Jésus-Christ de Nazareth qui avait tellement marqué les foules par son enseignement, par ses miracles, par les délivrances face aux esprits méchants. Et puis sa mort, incroyable injustice, sa résurrection phénoménale, le fait qu'un jour il allait revenir, etc. Et puis, je soupçonne, je ne peux pas le prouver, mais dans ce rouleau d'Ésaïe, un tout petit peu plus loin qu'Ésaïe 53, il y a un autre texte prophétique d'Ésaïe, avec une promesse particulière pour les étrangers, pour des gens qui, comme cette tenue éthiopien, étaient en recherche de Dieu. Ésaïe 56, versets 3 à 7, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera sûrement de son peuple, que l'eunuque ne dise pas, je ne suis qu'un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférable à des fils et à des filles. Yad Vashem, ça, hein, c'est ceux qui sont allés en Israël, à Jérusalem. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Vous pouvez imaginer, encore une fois, je ne peux pas le prouver que Philippe a utilisé aussi ce texte, mais il lui a expliqué certainement cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et je crois qu'à ce moment-là, sur ce char, dans ce désert entre Jérusalem et Gaza, il y a une visitation de l'Esprit. Magnifique, qui vient dans le cœur de cet homme, qui ne pouvait pas vivre une circoncision de la chair, dans la chair, mais dans son cœur, oui, la vraie circoncision en définitive, qui permet à un homme, une femme, de pouvoir naître à la vie nouvelle, de pouvoir découvrir ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, de pouvoir découvrir une dimension de la relation avec Jésus qui est phénoménale, puisque Jésus est plus grand même que le temple. Et cet homme, finalement, au bout d'un moment, dit, mais voilà, il y a un petit peu d'eau qui est là, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et puis voilà, Philippe va baptiser cet homme. Quelque chose de phénoménal. Quelle joie devait y avoir sur Siar. Il y avait une ivresse de joie, je pense, parce qu'à un moment donné, il y a même Philippe qui s'en va. Et puis cet homme, il est tout joyeux, il continue de louer Dieu. Continue sa route, il continue son chemin. Et moi, je ne doute pas un instant que quand il est rentré déjà avant de rentrer en Éthiopie, il a dû expliquer, il n'était pas tout seul, cet homme sur son char, il y avait des serviteurs. En Éthiopie, il a pu parler certainement à d'autres ministres. Je peux imaginer, même quand il est retourné à la synagogue, il a dû dire aux autres craignant Dieu, même prosélytes ou juifs, les amis, mais... Et on lui a demandé certainement, hein, comment tu as vécu ce temps à Jérusalem? Tu as pu adorer Dieu au temple? On peut imaginer beaucoup de choses. C'est magnifique. Un témoin du Christ, à part entière, membre du peuple de Dieu, en toute dignité, pleine dignité. Alors, je vais terminer là un peu mes propos. Je vais essayer d'avoir une conclusion aussi brève que possible. Je ne vous cache pas que la conclusion, normalement, prendrait, moi, pour moi idéalement, aussi longtemps que ce que je vous ai dit là, mais je vais essayer de très très bref. Quelle est l'intention théologique de Luc en écrivant tout cela? Ben, de ce que j'ai lu et compris, il y a une intention théologique très claire, c'est que Jésus a dit à ses disciples avant de partir qu'ils devraient être ses témoins. Partout, dans le monde entier. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Que pour cela, ils allaient recevoir une puissance, le Saint-Esprit, qui viendrait sur eux. Sinon, ce serait impossible d'avoir ce témoignage. Et je suis très touché de voir que, pour Philippe, par exemple, le simple diacre de la première église, c'est un homme qui a été utilisé par Dieu à Jérusalem, en Judée. C'est lui qui a été envoyé chez les Samaritains, et puis là, c'est lui qui est mis sur la route d'un étranger, qui vient même depuis l'Éthiopie. Je crois qu'à travers ses propos, Luc illustre le fait qu'il y a eu obéissance aux paroles que Jésus avait prononcées. Il y a eu consécration de témoins qui ont été obéissants, qui ont été fidèles, qui ont trouvé les mots pour être inspirants envers ceux qui étaient en recherche. Mais à travers tout cela, bien sûr, on voit surtout cette action providentielle de Dieu. Un Dieu qui aime les hommes, qui cherche les hommes, qui voit leur cœur. Un Dieu bienveillant, je crois, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors bien sûr, ça m'a fait réfléchir tout cela. Merci Seigneur déjà pour les hommes, les personnes que tu as mises sur ma route. Peut-être que vous vous souvenez, certains parmi nous ont des cheminements de conversion très très forts, marqués comme cet eunuque. Et se souviennent sans doute de quelqu'un qui leur a parlé du Seigneur, qui a été mis sur leur route d'une manière tellement formidable, providentielle. Je pensais à ta maman, Anthony. Hein, comment cette femme gitane est venue trouver ta maman dans la région de Bordeaux. C'était juste incroyable. Tu as donné ton témoignage une fois ou l'autre. Et puis ensuite, ben voilà, parfois on est des enfants de chrétiens, puis ça n'a peut-être pas été aussi spectaculaire. Mais ça ne fait rien. L'essentiel, c'est que on a eu des gens sur notre route. J'ai aussi pensé à des gens que Dieu avait mis d'une manière incroyable sur ma propre route pour que je sois témoin. Je n'ai pas le temps de vous en parler ici, mais ça m'a beaucoup ému, parce que des fois, j'avais l'impression d'être tellement impuissant, et puis Dieu mettait des personnes qui étaient sur le point de... Il ne demandait qu'une chose, comme cet eunuque éthiopien, dans le fond, de découvrir le Dieu vivant et vrai. Ils avaient la nuque tendre. Il y en a eu beaucoup d'autres où la nuque était assez raide, mais voilà. Ça va être notre condition de témoin jusqu'au bout du chemin. J'ai pensé aussi à ce voyage en Éthiopie, où la chose que je retiens peut-être la plus forte, c'est que nous étions avec un groupe de 14 personnes. Il y avait 3 chrétiens évangéliques dans ce groupe. Le reste, quasiment que des personnes catholiques. Il y avait un anglican. Ces personnes catholiques, il y avait un couple qui semblaient lire la Bible et prier, les autres, je ne savais pas trop où ils en étaient. J'ai vu pour certains des pratiques nouvel âge, des attirances pour l'occultisme très très claires. Un couple un peu catholique, un peu bouddhiste, voilà, dans leur pratique, ils allaient assez loin, ésotérique. Et je me disais, c'est quand même incroyable, ils habitaient tous en Suisse, il y en a qui étaient des Sud-Américains, il y en a qui étaient des Asiatiques, il y avait des Européens. Vous voyez cette belle brochette de personnes, puis je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ces gens? Ils n'étaient pas venus en Éthiopie pour écouter des méditations. Je n'ai pas pu donner cette méditation en Éthiopie. J'avais préparé toute une série de méditations, j'ai dû m'adapter. Claudine m'a dit, tu ne vas quand même pas prêcher tout de suite l'évangile. Attends, tu as vu ces gens? Premier jour, j'étais assis dans l'avion à côté de cette dame asiatique. Elle m'a dit tout de suite, mais vous savez, moi je ne crois pas en un Dieu unique, créateur. Hein. Ça, moi je n'y crois pas du tout. Le lendemain matin, au petit déjeuner, on se retrouve avec une dame catholique, tout seul, on était assez tôt au petit déjeuner, elle me dit, j'espère que vous n'êtes pas... Non, elle me dit, pourquoi est-ce qu'il y a un pasteur avec nous? J'essaie de lui expliquer, puis elle me dit, mais j'espère que vous n'êtes pas un évangélique. Ok. Donc c'était un cri vers Dieu, parce qu'on s'est attaché à ces gens, on a mangé avec eux, on a passé 2 semaines avec eux, puis moi je voyais des besoins à travers ça. Et puis, je suis obligé d'être très bref, mais finalement, je disais, Seigneur, mais comment est-ce que je peux toucher leur cœur? Comment est-ce que je peux être témoin? Puis ça m'a parlé aussi au retour en Suisse, parce que je me disais, mais voilà, j'étais à l'étranger en Éthiopie, j'étais avec des Suisses, mais qui étaient tous des étrangers au niveau de leurs racines. Et puis, tu me donnais l'occasion de leur parler. Philippe, il n'a pas eu besoin d'aller jusqu'en Afrique. Cet Africain est venu jusqu'à lui. Et puis nous, en Suisse, on est ici dans un bâtiment où il y a la Westlake Church. Au dernier recensement, il y a 5 ans, ils étaient 45 nationalités différentes. Il y a maintenant en plus Belém, l'église de... enfin, l'église de... Ouais, ils sont des pentecôtistes. Mais voilà, ce sont nos frères. Et qui sont des Portugais, des Brésiliens. Et dans la ville de Nyon, il y a 40% d'étrangers, etc., etc. Mais voilà, nous avons devant nous un champ d'évangélisation. Nous avons des personnes qui cherchent Dieu. Est-ce qu'on a la foi pour penser que Dieu peut faire de nous des témoins envers ces personnes et que certaines de ces personnes ont un cœur tendre, une nuque tendre qui est prête à se tourner vers Dieu. Ça, c'était l'interpellation pour moi. Après, j'ai fini mon temps, bien tu me dis. Hein. Je peux avoir 2 minutes encore. Alors, je vais me prendre la prochaine demi-heure pour vous parler. Pour vous parler de la chose qui m'a le plus interpellé dans ce texte. C'est toute la dimension du surnaturel. Quand on parle de surnaturel, pour moi, ce n'est pas de l'ésotérisme. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font tourner des tables au gymnase ou ailleurs. Il y a des gens qui essaient d'entrer en contact avec les morts. Ça, ce n'est pas le surnaturel que je recherche. Le surnaturel que je recherche, c'est celui que la Bible décrit. C'est Jésus qui ressuscite des morts. C'est Jésus qui passe des fois à travers des murs. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est quelque chose de surnaturel. Comprendre la Bible, c'est quelque chose de surnaturel. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible si le Saint-Esprit ne vous accorde pas cette capacité de comprendre les textes. Et dans ce récit d'Acte 8, si vous le lisez, je ne l'ai pas lu avec vous volontairement, j'espère qu'en rentrant à la maison, vous allez le lire. Dans un esprit de prière. C'est un ange qui intervient auprès de Philippe. Va sur la route du désert entre Jérusalem et Gaza. Et Philippe obéit. Et puis il marche dans le désert, et tout d'un coup, le Saint-Esprit lui dit, va vers cet homme. Et il s'approche du char, et il entend cet homme qui lit le prophète Ésaïe 53. Et vous n'avez pas entendu le pire encore. C'est qu'après, d'un coup, il est enlevé, comme ça. On ne sait pas ce qui se passe, rationnellement parlant. Les esprits cartésiens, attention. Il est enlevé, puis il va continuer, Philippe, d'évangéliser sur la côte jusqu'à Césarée. C'est là que Luc, l'évangéliste, va un jour le rencontrer, quelques années plus tard, parce qu'il va s'arrêter avec Paul et une équipe apostolique. Et il va rencontrer Philippe avec ses 4 filles, qui sont des prophétesses. Et là, Philippe va raconter à Luc ce récit de la rencontre avec l'eunuque éthiopien. C'est pas mal, hein? Dans mes voyages, j'ai parfois des surprises. J'étais il y a 2 ans en Israël, dans ma chambre, j'ai partagé la chambre avec un homme de Jimel. Il a entendu 2 fois de manière audible la parole de Dieu. Il m'a dit, c'est impressionnant parce que les 2 fois, c'était la même parole, c'était le même son et tout. La première fois, il allait se suicider. Il était appelé par son nom. La 2e fois, il était en Thaïlande quand il y a eu le tsunami et il a entendu, il était sur la plage, c'était bizarre, la mer, comme elle se projetait, là, tac, et puis il a entendu « Fuis dans la montagne !» Et il a dit aux autres qui étaient autour de lui « Fuyez, fuyez dans la montagne !» Ah, mais pourquoi ? Lui, il a fui, il a été sauvé. J'ai été aussi pas mal interpellé depuis 4-5 ans par tout ce qui se passe dans le monde musulman au niveau de la révélation de Dieu. Aux musulmans à travers des songes. Et voilà, là j'ai mis l'image, l'Éthiopien rentre chez lui, il amène beaucoup de gens au Seigneur. Si jamais cette question vous intéresse, allez acheter un livre, tu seras une bénédiction, qui parle de quelle manière Dieu se révèle le nom de Jésus à des musulmans aujourd'hui, et comment il met des disciples de Jésus sur la route de cheikh, d'imam, de responsable de mosquée. C'est un livre qui est impressionnant au possible. D'où cette dimension du surnaturel est stimulante au possible. Ce n'est pas pour chercher le sensationnel, mais c'est parce que les cœurs sont des fois tellement durs, les nuques tellement raides, que pour pénétrer ces cœurs durs, eh bien, Dieu doit utiliser des moyens hors du commun. Et je crois qu'il veut le faire pour les Vaudois aussi, comme il veut le faire pour des personnes qui sont autour de nous. Mais est-ce que nous sommes ouverts à cette dimension? Est-ce que nous avons envie de voir le Saint-Esprit agir encore dans notre génération C'est là le défi que je vous partage. Et pour cette semaine des Kids Games, je me dis, c'est magnifique, on a 208 enfants inscrits à Glan. Pour cette semaine, des enfants qui viendront aussi de différentes sources, racines, tout ce qu'on veut, ethnies. Une occasion, parmi eux, il y a des chrétiens, des enfants chrétiens de la Frate, ou on ne sait pas, ils ne sont pas forcément tous chrétiens, les enfants de la Frate. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils viennent à l'église qu'ils sont chrétiens. Désolé. Hein. Il y a un choix personnel à un moment donné. Mais est-ce que nous, on est prêts à prier pour cela, à croire que Dieu va agir aussi, non seulement à Glan avec ses 200 enfants, mais sur ses 2400 enfants de Suisse romande qui vont se retrouver toute la semaine pour entendre l'Évangile. Alors, on vous proposait, je ne sais pas si tu veux diriger ce moment de prière, Anthony, j'y vais. Est-ce qu'il y avait deux ou trois prières par rapport à... On pourrait se lever, vous avez été longtemps assis. Deux ou trois prières par rapport à cette semaine des Kids Games qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui. Les enfants sont pour la première journée à Bulle, mais après ils sont répartis dans les différentes régions. Est-ce que deux ou trois voudraient prier, être nos porte-parole devant le Seigneur pour faire une prière de foi, pour que ce ne soit pas juste une édition supplémentaire des Kids Games, mais une opportunité pour des enfants de découvrir la beauté du Seigneur, la bonté du Seigneur qu'il est, et que ces enfants puissent être comme des témoins à leur tour dans leur foyer.